Place Info.
Bonsoir à tous. Les retraites encore et toujours à la une. Comment sortir du blocage? Le Premier ministre qui parle de reprise du dialogue. Nous allons détailler notre enquête au Doxa Dentsu Consulting France Info Le Figaro. Dans les informés également, jour d'élection présidentielle en Algérie, législative en Grande-Bretagne. Nous en parlons avec Véronique Reilsoult, présidente de Dentsu Consulting, avec Olivier Perroux, journaliste politique au Point, avec Gilles Bornstein, éditorialiste politique à France Info, et nous serons rejoints dans un instant par Naïla Latrousse, journaliste rédactrice en chef Maghreb et Moyen-Orient à Jeune Afrique Magazine et présentatrice des Informés le week-end. J'aurai le plaisir de la recevoir sur ce plateau. Dans un instant, il y a quelques difficultés de circulation, particulièrement ce soir dans la capitale. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio, à la TV, sur le canal 27 de la TNT. Il ne se passe plus un jour sans qu'il y ait un rebondissement dans le feuilleton de la réforme des retraites. Voici l'épisode, Sibeth Ndiaye et l'âge pivot. La porte-parole avait déclaré ceci à Léa Salamé sur France Inter ce matin.
Si je pars à 62 ans, le malus de 5%, je le paye jusqu'à 64 ans seulement ou je le paye sur toute ma retraite?
Non, vous payez jusqu'à 64 ans.
Et après, je regagne...
Vous revenez à taux plein, oui.
Je reviens à taux plein. Donc pendant 2 ans, je paye un malus.
Exactement.
Et à partir de 64 ans, je reviens à taux plein.
Ah, est-ce une bourde? J'ai posé la question tout à l'heure à la porte-parole qui était l'invité du 1850 France Info.
Je me suis trompée, j'ai confondu avec le système qui est celui du régime Agirc-Arrco. Donc, je l'ai tout de suite dit. Moi, je pense que c'est important.
Vous l'avez dit sur Twitter, hein.
Ouais, exactement. Ouais. Je pense que c'est important quand on a un responsable politique de dire quand on s'est gouré, parce que effectivement, il y a de la complexité. D'ailleurs, je comprends parfaitement que nos concitoyens soient inquiets quand on discute de la réforme qui est plutôt d'une réforme des retraites, qui est plutôt une réforme d'un âge où en fait on abandonne la vie active, on rentre dans autre chose. Oui, ça génère de l'inquiétude. C'est important que les responsables du gouvernement soient extrêmement précis. Et quand on fait une erreur, il faut le dire.
Gilles Bornstein, bon, bonne réponse.
Moi, je l'avais entendu ce matin aussi. J'avais été étonné de sa réponse m'étonnait, mais je ne savais pas ce qu'il en était. Je trouve qu'elle s'en tire plutôt pas mal. Voilà, elle a fait
difficile
une erreur.
D'expliquer la réforme même au plus haut niveau. Hein.
Extrêmement difficile. Et pour avoir vu des ministres aujourd'hui, eux-mêmes n'ont pas tout compris non plus à tout. Donc c'est extrêmement compliqué. C'est vrai, quand on est porte-parole du gouvernement, on doit avoir réponse à tout le temps parce qu'il y a les réformes et le reste ne s'arrête pas. Et bon, ben voilà, elle s'est plantée, elle le dit, je trouve qu'elle le dit plutôt bien.
Véronique Reilsoult, les Français ont ce sentiment, on va venir au sondage dans un instant, les Français ont ce sentiment de flou, hein, parce qu'au fond, il y a eu beaucoup de déclarations publiques et peut-être pas assez de démonstrations concrètes.
Peu d'éléments concrets, ils en cherchent beaucoup. Parfois, ils tombent du coup sur des mauvaises informations, mais c'est vrai que la porte-parole du gouvernement a bien fait d'expliquer qu'elle s'était trompée. Ça retire de la défiance en soi, parce que finalement, vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes les bonnes réponses. C'est plutôt compliqué. Et c'est un des points, d'ailleurs, que les internautes et les Français globalement reprochent. C'est ce sentiment, alors qu'on n'a pas toutes les réponses, de donner l'impression qu'on sait sans savoir. Ça n'ajoute pas, ça n'est pas rassurant. Ça fait partie des points, d'ailleurs, c'est ce côté un peu anxiogène.
La réforme des retraites, Véronique Reilsoult, c'est le bruit médiatique le plus fort du moment?
Ah oui, sans conteste. Hier, dans l'après-midi, il y a eu plus de 300...
Donc après la déclaration d'Edouard
après
Philippe.
Après la déclaration, plus de 275 000 messages entre midi et minuit. On peut dire que c'est un sujet de préoccupation.
Sujet phare,
avec des commentaires qui sont très variés et pas toujours très positifs. Mais en tout cas, c'est un vrai sujet de préoccupation important. Et les Français attendent des réponses les plus claires possibles. Et quand il n'y a pas de réponse claire, on va chercher et on ne tombe pas toujours sur des très bonnes informations.
Olivier Perroux, peut-être que le gouvernement aurait pu partir de situations très concrètes, d'éléments chiffrés dans lesquels les cheminots, les enseignants, les salariés du privé et tout le monde aurait pu se reconnaître.
Oui, je crois que l'exercice du Premier ministre hier, l'exercice de clarté, de pédagogie, il est réussi dans la forme, etc. Mais Emmanuel Macron a réclamé récemment que les simulateurs, justement, le simulateur de vos retraites, de nos retraites, arrivent vite et très vite. Ça permettrait de régler un vrai problème politique, justement de clarté, et de régler un peu toutes ces questions que l'on se pose. Ça aurait pu permettre à Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, d'éviter sa bourde, qui est finalement anecdotique.
Oui, elle expliquait tout à l'heure qu'avec un simulateur qui aurait été mis très tôt ligne, on aurait dit 1963, c'était 1975.
Mais il a été rétorqué au président de la République que ça met longtemps Ça prend du temps de faire un simulateur et que visiblement, il n'y en aura pas de simulateur d'ici 4 à 6 mois. Donc, en fait, tant qu'on est dans cette situation de où finalement les Français ne comprennent pas vraiment avec le particularisme de chaque individu de sa retraite, ben finalement, on va rester dans ce flou de compréhension et ce flou de clarté.
Et Gilles Bernstein, la retraite, c'est la troisième partie de l'existence, c'est parfois la fin de vie même, qui est en perspective de tout cela. C'est normal que les Français s'inquiètent et que chacun ait finalement une histoire à raconter sur la retraite.
Ah bah c'est parfaitement normal, parce que en fait, le gouvernement a cru, enfin je ne sais pas s'il l'a cru, mais l'impression que ça donne, c'est qu'en prononçant le mot universel, ça réglait tous les problèmes, c'était pour tout le monde pareil. En fait non, parce que c'est vrai que l'universel, vous avez parfaitement raison, l'universel n'existe pas, que chacun et son propre universel à lui-même. Et de fait, tant qu'il y a un argument, au-delà de la technicité, il y a un argument qui porte, celui porté par exemple par la CGT, qui est de dire « tout le monde y perdra ». Je n'ai pas la moindre idée, je ne peux pas vous dire si c'est vrai ou faux, parce que j'entends les arguments des uns, j'entends les arguments des autres, et moi-même, je ne peux pas vous le dire. Tant que ces simulateurs individuels n'existeront pas, parce qu'à un moment, c'est ce qui compte, c'est est-ce que je vais y perdre ou pas. Aujourd'hui, c'est assez facile avec le système actuel, c'est relativement facile de savoir ce à quoi on aura droit à la retraite. Tant que ça n'existe pas pour le système promis par le gouvernement, les difficultés de pédagogie seront énormes.
Véronique Reilsoult, ça manque de simulateurs. Je ne sais pas si la chose est évoquée dans les échanges que vous captez. Vous n'avez pas un simulateur, vous avez une sorte d'observateur de l'opinion.
C'est un sujet. C'est même un sujet où les uns et les autres se disent quel est le meilleur simulateur qu'il y a en ce moment, puisqu'il y en a quelques-uns.
Le meilleur simulateur, c'est Neymar.
Je ne sais pas.
Dès qu'on le touche, il tombe. Mais
excellent,
c'est autre chose.
Gilles Bernstein. Oui.
Mais là, c'est un autre sujet. Neymar est aussi un vrai sujet de conversation, mais pas dans le cadre.
Allez, on va passer à votre enquête au Doxa Dansou Consulting. Dans un instant, pour l'heure, il est 20h10 sur France Info, le rappel de l'info avec vous, Steven Gouaillet.
Les policiers assurés de conserver leur régime de retraite, explication des organisations syndicales à la sortie d'une rencontre au ministère de l'Intérieur avec Christophe Castaner, les syndicats suspendent leur mouvement de grève. Sur Twitter, Édouard Philippe rappelle que sa porte reste ouverte, il doit contacter les leaders syndicaux pour voir avec eux comment reprendre rapidement le dialogue sur le projet de réforme des retraites. La contestation largement soutenue dans l'opinion, près de 7 Français sur 10 jugent le mouvement de grève justifié, chiffre de notre sondage au Doxa Dansou Consulting pour France Info et le Figaro. Mobilisation toujours en cours chez les cheminots, seulement un TGV et un Intercité sur 4 en circulation demain, 4 TER sur 10 en circulation. Un scrutin sous tension en Algérie, l'élection présidentielle marquée par des manifestations d'ampleur dans les rues d'Alger cet après-midi, les mobilisés dénoncent une mascarade électorale. On voulait offrir les plus belles vagues du monde. Explication de vote de Tony Estanguet sur France Info après le choix de Tahiti pour accueillir les épreuves de surf des Jeux Olympiques de Paris 2024. Un choix soutenu par les surfeurs, a poursuivi le président du comité d'organisation.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Édouard Philippe n'a donc pas convaincu et tout le monde pense être perdant avec la réforme des retraites selon notre sondage au Doxa Dansou Consulting France Info Le Figaro réalisé après le discours d'Édouard Philippe hier et aujourd'hui auprès de 1000 personnes sur Internet. Voici les explications de Gaël Slimane, le président de Doxa.
Bien des gens ont beau être perturbés, ils nous disent que ce mouvement est justifié. 68% le disent dans notre enquête, exactement autant que ce que l'on observait pour le 4 décembre. Et je le rappelais la semaine dernière déjà, on a eu une perte de la bataille de la communication depuis un moment maintenant par le gouvernement, puisque à l'origine, les mobilisations porté uniquement par la SNCF et la RATP, n'était pas soutenu par les Français. Mmh. C'est depuis ces dernières semaines que les choses se sont cristallisées et que l'opinion publique estime que c'est vraiment justifié et Édouard Philippe n'y a rien changé.
Alors je rappelle les deux chiffres clés avec vous, Véronique Reilsoult, 68% de tiers des Français qui estiment que les mobilisations contre la réforme sont justifiées et l'autre chiffre c'est n'a pas convaincu ou pas convaincant, c'est 61%. Alors il y a autre chose qui est intéressant dans votre enquête, c'est pourquoi n'a-t-il pas convaincu au juste ?
Alors, il n'a pas convaincu déjà parce qu'il n'a pas rassuré. 70% des Français n'ont pas été rassurés par ses propos. Et puis aussi parce que, dans le fond, paradoxalement, vous avez énormément de Français qui sont d'accord pour dire que la fin des régimes spéciaux et la réforme est une bonne chose, puisque 63% des Français sont d'accord sur le fait qu'il faut réformer. Mais par ailleurs, ils ont le sentiment qu'on est parti dans un sujet de cas particuliers, non plus de régimes spéciaux, que du coup, ces cas particuliers finissent par complexifier la situation. Et puis ensuite, ils n'arrivent pas à connaître réellement ce mode de fonctionnement sur le point. Ça fait un moment qu'ils essayent de comprendre la valeur du point. Comme on n'a pas cette information et que le Premier ministre ne l'a pas expliqué plus clairement que ça, finalement, ils sont nombreux à se dire qu'ils vont être perdants. Et quand on essaie de rentrer dans le détail de qui sont les plus perdants, bien en fait, tout le monde a le sentiment qu'il va être perdant.
Gilles Bornstein, on n'en sort pas.
Ben non, on n'en sort pas, mais on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Au bout d'un moment, c'est pas compliqué là. Enfin, c'est à la fois le sujet le plus technique qui soit, mais c'est quand je pars et combien je vais toucher. Tant que les Français ne sauront pas très clairement quand ils partent et combien ils vont toucher, le gouvernement n'en sortira pas. Il peut, voilà, c'est. Alors je comprends très bien que ça soit techniquement très compliqué. Ouais. Par exemple, le rattrapage pour les profs, c'est extrêmement compliqué.
Et il faudrait du concret sur la table, en fait. Voilà. Des engagements concrets, précis. Oui.
Mais on comprend très bien pourquoi c'est compliqué, mais pour autant, ça ne rassure pas les gens.
Olivier Perroux.
Mais justement, en fait, ça montre bien, ça montre même un problème, le sondage montre un problème beaucoup plus important autour de cette réforme, c'est que, on dit tous que l'opération du Premier ministre, finalement, elle est réussie dans la forme, dans la façon de discourir. Mais le problème, le vrai problème, au fond, c'est que la parole, encore une fois, la parole politique n'imprime plus. Les gens sont plus prêts à croire ce que dit la CGT, c'est-à-dire, comme vous disiez tout de suite, Gilles Bornstein, c'est-à-dire tout le monde y perd, que le travail, le discours d'une heure, qui était finalement très technique aussi, le discours d'une heure du Premier ministre, que de croire ce discours. Donc finalement, c'est un échec, un raté politique ce discours, parce qu'il ne réussit pas à convaincre les Français de la nécessité de cette réforme.
Alors Véronique Reilsoult, il faut être juste, il y a des mesures présentées, saluées par les Français.
Il y a même des mesures qui sont quasiment plébiscitées
même, oui.
Parce que 81% des Français trouvent que la retraite minimum à 1 000 euros, c'est très bien.
Ça marche.
Ça fonctionne. Ouais. 80% des Français trouvent que la surcotisation pour les hauts revenus, c'est également une très bonne idée. Donc oui, il y a énormément de mesures qui sont plébiscitées et ça n'est pas un rejet massif de nouveau de l'idée de réforme.
Et 63%, je lis, c'est votre enquête, pardonnez-moi, je vous pique les chiffres, 63% favorable à la fin des régimes spéciaux et à la mise en place de ce fameux, Gilles Bornstein l'évoquait tout à l'heure, régime universel unique.
Ils demandent de l'équité. En fait, quand on regarde la raison pour laquelle ils ont envie que ça bouge, c'est qu'ils demandent de l'équité, ils veulent que les choses soient justes et ils veulent qu'il y ait quelque chose de clair et d'équivalent pour chacun.
Et l'âge pivot,
L'âge pivot, et ils ne sont pas particulièrement satisfaits parce que de nouveau, après c'est toujours pareil, plus vous vieillissez, plus vous êtes d'accord pour cet âge pivot à 64 ans, plus vous êtes jeune, moins vous êtes d'accord, mais globalement...
Plus c'est une perspective qui semble...
À peu près 50%, enfin c'est très clivant, c'est 50-50. Globalement, c'est de nouveau pas forcément ce point-là qui est le plus compliqué, c'est celui le plus compliqué avec les syndicats, mais pour les Français, leur vrai sujet, c'est de nouveau, si ça doit être des points, combien vaut le point ? Comment est-ce qu'on calcule ?
On revient
systématiquement à ce sujet.
Ça montre que justement, les Français qui sont interrogés dans ce sondage, finalement, sont plutôt en accord avec la promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Il y avait un autre sondage plus récemment qui disait que 41% finalement des électeurs d'Emmanuel Macron étaient contre le projet de réforme, ou du moins souhaitait, pardon, je vais corriger, n'était pas contre le projet de réforme, mais souhaitait la poursuite des grèves contre cette réforme. Ça montre finalement qu'il y a un décalage entre ce que veut le Premier ministre, c'est-à-dire une réforme d'âge, et la promesse présidentielle qui n'était pas seulement une réforme d'âge, qui était surtout une réforme structurelle.
Il y a ce 68% de notre enquête des Français qui estiment toujours que les mobilisations contre la réforme des retraites, que ces mobilisations sont justifiées. Combien de temps ça peut durer, ce soutien, puisque pas de trêve à Noël. Dans les transports, si le système par points n'est pas retiré, préviennent la CGT et FO. On écoute Laurent Brun, le secrétaire général de la CGT Cheminot, sur France Info ce matin.
La grève continue jusqu'à ce qu'on nous garantisse que le système actuel est maintenu, le système pour tous les salariés, on entame des négociations pour l'amélioration de ce système.
Donc
en fonction
de nos
revendications.
Donc la grève continue avec Noël en ligne de mire.
La grève continue et nous sommes au regret, parce qu'on n'était pas parti comme ça, de constater que le gouvernement est droit dans ses bottes et que donc elle va durer longtemps.
Donc pas de trêve pour Noël.
pas de trêve pour Noël, sauf si le gouvernement revient à la raison avant ça.
Gilles Banchin, l'argument est de dire, au fond, si nous faisons grève, c'est pas notre faute à nous, c'est celle du gouvernement qui ne retire pas sa réforme.
Oui, c'est toujours
ça. Si c'est un argument que les Français entendraient si d'aventure le système entier serait bloqué des transports à Noël. Hein.
Vous avez parfaitement raison, la bataille, c'est ce qu'on appelle la bataille de l'opinion. Si la France est bloquée, bon là, on sent que ça commence à, voilà, ça commence à devenir compliqué pour les usagers. Si c'est bloqué, si les Franciliens et les Français peuvent pas faire leurs courses de Noël, s'ils peuvent pas partir en vacances, s'ils ne peuvent pas aller réveillonner avec leur famille, ça va devenir compliqué. Chacun fait le pari que la faute en sera imputée à l'autre. Le gouvernement espère que c'est les syndicats qui emporteront le chapeau, et les syndicats espèrent que ça soit le gouvernement qui emporte le chapeau.
Oui, bataille de l'opinion, exactement.
Voilà, en 95, clairement, l'opinion publique avait soutenu les syndicats contre le gouvernement. Qu'en sera-t-il aujourd'hui si ça devait perdurer? Je n'en sais rien, mais en tout cas, pour le gouvernement, de laisser les choses s'enquister jusqu'à Noël est un pari. S'il devait le faire... On se dirige pas vers ça, j'ai l'impression. Hein.
Non.
Mais s'il devait le faire, c'est un pari extrêmement risqué.
On va demander tout à l'heure à Neila Latrousse qu'est-ce qu'elle en pense, hein, puisqu'elle est scotchée dans les embouteillages. Nous sommes très solidaires si elle nous entend. Rejoignez-nous, Neila, vous êtes la bienvenue. Et bien évidemment, Véronique Reilsoul, sur cette perspective de blocus des transports, des trains en période de Noël. Marine Le Pen, à l'instant, tout à l'heure, souhaiter une sorte de trêve de la contestation à Noël, la présidente du Rassemblement National. Que disent les internautes?
C'est pas l'expression qu'on va retrouver le plus couramment, mais en revanche, évidemment, personne ne se réjouit de la perspective de ce blocage qui durerait. Mais de nouveau, pour beaucoup, ils pensent que c'est l'un des moyens de faire avancer les choses et d'éclaircir les choses. Il y a une petite musique quand même qui monte de plus en plus, qui sont les petits commerçants, les tout petits commerçants, donc les TPE, souvent des commerçants de 2-3 personnes, qui ont déjà souffert en décembre dernier et qui commencent à dire... Pourquoi ce problème, qui pose une question sur le calendrier, pourquoi est-ce que cette réforme a lieu là maintenant? Pourquoi cette discussion a lieu en décembre? Et donc eux, c'est pas tant qu'ils réclament une trêve sur les discussions, c'est qu'ils disent il faut trouver quelque chose et vite parce que ils sont en danger et cette voie-là monte de plus en plus et en règle générale, c'est plutôt le gouvernement qui est pointé comme responsable de cette situation.
Il y a un mot qui commence à sortir, hein, ces discussions, on va y venir dans un instant. 20h et 20 minutes sur France Info. Pour l'heure, nous marquons une pause. Le rappel de l'info avec vous, Steven Goyer.
Le gouvernement en appelle à l'empathie face à la contestation contre la réforme des retraites. Mot utilisé par Sibeth Ndiaye, invité de France Info. Je pense que c'est important de permettre à nos concitoyens de vivre les fêtes de fin d'année en famille, ajoute la porte-parole du gouvernement. Une réponse notamment à la prise de position du secrétaire général de la CGT, cheminot, pour Laurent Brun. Il n'y aura pas de trêve pour Noël, sauf si le gouvernement revient à la raison en retirant son projet. Sur Twitter, Édouard Philippe, lui, dit vouloir reprendre le dialogue avec les organisations syndicales sur le projet de réforme. Météo France place 14 départements du sud-ouest en vigilance orange pour vent violent. De fortes rafales sont attendues cette nuit sur le littoral de la Charente-Maritime aux Pyrénées-Atlantiques. Un médecin mis en examen pour agression sexuelle aggravée sur des policières. Un praticien du Mans chargé de faire passer des visites médicales aux fonctionnaires de police. 6 policières ont déposé plainte contre lui. Brexit, or not Brexit, début de réponse ce soir. Élection législative jusqu'à 23h de l'autre côté de la Manche. Boris Johnson espère obtenir une majorité de sièges pour finaliser la sortie de l'Union européenne.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Édouard Philippe sur Twitter dit vouloir reprendre le dialogue. Emmanuel Macron, en marge du sommet européen de Bruxelles, a parlé, lui, de concertation. Voici ce qu'en a dit le président de la République.
Il y a un président de la République qui défend les intérêts français, fait avancer notre agenda européen ici. Il y a un gouvernement qui travaille à Paris, qui a fait une proposition, et maintenant il y a une concertation qui doit se faire. Voilà.
Olivier Pérou, ça y est, les négociations vont reprendre quand on entend les deux têtes de l'exécutif.
Mais moi, il y a un mot dans ce que vient de dire le président de la République qui me surprend, qui m'étonne vraiment, c'est le mot proposition. Pendant des semaines, le gouvernement nous a dit ne vous inquiétez pas, on va vous détailler la réforme. Mi-décembre, ou du moins début décembre. Et là, finalement, le président de la République remet au stade de simple proposition de réforme quelque chose qui a finalement été très détaillé. Donc on est vraiment dans une situation là un peu de trouble politique où on ne comprend pas vraiment. Hier Édouard Philippe nous disait finalement c'est cette réforme, c'est celle qu'il faut faire. On peut faire quelques agencements, c'est ce qui a d'ailleurs été fait. Et là finalement on retourne au stade de la proposition et de la concertation où on va faire de nouveaux agencements, de nouvelles concessions.
Vous y voyez une sorte de rétro-pédalage ou de changement Gilles Bernstein sémantique un petit peu ou pas forcément ?
De la part d'Emmanuel Macron ?
Oui.
J'en sais rien. Franchement, j'en sais rien.
Compliqué à savoir. Hein. Oui.
Non, mais là, tout le monde est dans une situation inconfortable. Le gouvernement a vu qu'il était dans une situation de blocage, je pense. Je ne sais pas si leur surprise après la réaction de Laurent Berger était feinte ou pas, mais ils avaient l'air sidérés de la réaction de Laurent Berger. Pourtant, il leur avait expliqué pendant un an et demi, la ligne rouge, c'est ça, vous faites ce que vous voulez,
en
gros.
Il a rappelé Emmanuel Macron mais ça, mardi soir, juste avant le déjeuner. Ils se sont eu au téléphone et il lui a dit, la ligne rouge, c'est ça.
Exactement. Et tout le monde a l'air étonné dans la majorité que Laurent Berger, la CFDT et les autres syndicats réformistes soient fâchés. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde doit en sortir. Le gouvernement doit en sortir parce que sinon, il peut y avoir des blocages à Noël, il peut y avoir des problèmes dans l'économie, il peut y avoir tout ce que vous voulez qui, à la fin du bout, au bout du bout, seront mis au débit du gouvernement, j'en suis sûr. Pour les syndicats réformistes, c'est la même chose. Parce que le Laurent Berger en question, qui là a dit qu'il va manifester, il n'a pas... Là, il est dans un paradoxe total qui va se retrouver aller défiler avec son pire ennemi, Philippe Martinez, contre une réforme qu'il défend. C'est quand même n'importe quoi.
Oui, il y a un côté un petit peu schizophrénique dans cette démarche.
Tout le monde, là, tout le monde doit en sortir. Alors, est-ce que le gouvernement, on voit à peu près les gestes, on pourra en parler, qui permettraient d'en sortir. Est-ce que le gouvernement pourra les faire ? Est-ce qu'Édouard Philippe pourra dire avec sa bouche ce que Laurent Berger attend ? Eh bien là, on va le voir assez vite.
Parce que de source Élysée, Laurent Berger savait, moi ça m'a été glissé également.
Il ne le démente pas.
Voilà, il ne démente pas, même Élise, il savait, il était au téléphone avec le Premier ministre, il était informé et au fond, sa déclaration serait interprétée comme une forme de surréaction ou voire même de prise de position. On va dire à usage interne de la CFDT, voilà, pour faire les choses simples.
Enfin, Laurent Berger,
il fait la politique. J'espère que au gouvernement, on sait que Laurent Berger fait de la politique, Monsieur Martinez aussi. Donc, évidemment, s'il a été prévenu. Peut-être que finalement, s'il a été prévenu aussi, Laurent Berger a dit attention, il a répété sans cesse que cette ligne rouge, fallait pas la dépasser. Peut-être aussi c'était un appel du pied pour finalement un peu agencer cette mesure d'âge. Et ils ne l'ont pas fait, ils ne l'ont pas écouté. Et lui, il a été au bout de sa pensée.
Véronique Reltsoult, sur le fait que des négociations finalement pourraient être réenclenchées pour tenter d'apaiser la situation, c'est une option que les uns et les autres envisagent.
Disons que c'est certainement une des façons. Les uns et les autres sont d'accord pour sortir de la situation, mais c'est pas forcément ce qu'attendent fondamentalement les Français. De nouveau, l'âge, on a vu, c'est à 50-50, donc oui, ça serait sans doute un signe intéressant vis-à-vis de la CFDT, mais c'est pas forcément ce que les gens attendent. Et puis, plus on parle de « il va falloir renégocier », plus on explique que finalement, c'était pas tout à fait ce qu'on avait dit, plus on est dans une situation plutôt anxiogène. Quand on dit que 70% des Français ne sont pas rassurés par le discours, ben ça participe à ça. C'est, dans le fond, déjà, on n'a pas bien compris comment ça fonctionne, et ça redevient encore un peu plus flou, et puis revient deux sujets de façon récurrente. Ce sentiment que ce sont des cas particuliers qui vont être négociés, et donc que finalement la notion d'équité et de régime commun n'existe et universel n'existera pas tant que ça. Et puis le deuxième point, qui est souvent pointé de façon humoristique en raillant, mais qui veut bien dire aussi ce que on peut comprendre, qui est eh bien si cette réforme est si formidable, pourquoi faut-il la repousser d'autant ? Si c'est si bien que ça, appliquons-la tout de suite. Grand Dieu, on en a
parce
bien envie.
Parce que dans votre enquête, le rejet de la réforme s'explique probablement, c'est ce que vous expliquez vous-même de votre côté, pour les Français, parce que tout le monde ou presque, petite pension, serait perdant. Les régimes spéciaux, je note, 79%, les salariés du public dans 56. Leur ensemble, 66%, ceux du privé, 56%, et même les femmes.
53.
Même les femmes, 53, alors qu'il est répété à l'envi qu'au fond, les femmes bénéficieraient très largement de cette future réforme.
Donc globalement, on voit bien, pour les Français, tout le monde est un peu perdant. Et donc ça s'explique en grande partie, parce que justement, on ne sait pas de quoi on est en train de parler, et que on a le sentiment, dès qu'on fait le moindre calcul, que tout le monde va y perdre, et que quoi qu'il arrive, on va travailler plus et on gagnera moins, ou en tout cas, on touchera moins.
Avec la sensation, Olivier Perroux, rapidement avant la pause, que nous serions en train de revenir revenir au point de départ de cette affaire.
Hein. Oui, et puis finalement, on peut se poser aussi une question, est-ce que ce ne serait pas l'occasion de faire revenir le fameux grand débat autour de la retraite et de remettre les Français autour de la table pour discuter de ce qu'ils veulent et de ce qu'ils ne veulent pas?
Alors, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui est encore négociable aujourd'hui dans cette réforme de retraite dans un instant, après la météo et le rappel de l'info. Il est 20h28 sur France Info. On se retrouve dans une poignée de minutes. A tout de suite.
Le bus des municipales, station Lille. À 3 mois des élections, Lille, 4e étape de notre Tour de France. Demain, entre midi et 14h, Frédéric Carbone sillonne la ville dans les transports avec vous.
Ensemble, on va parler de vos préoccupations et des enjeux de l'élection. La fièvre sociale à Lille, comme partout en France, les transports, la pollution. On se pose et on vous écoute.
2 heures de direct, d'échanges, de témoignages. Le bus des municipales, station Lille, en partenariat avec La Voix du Nord. Rendez-vous demain midi sur France Info. France Info, et tout est plus clair.
France Info Météo, avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, créateur de machines expresso à dose, fabriquées en France, à retrouver sur malongo.com.
La météo, les prévisions avec vous, Élodie Calac pour Météo France.
Un temps très perturbé, les pluies progressent vers l'est ce soir. Elles sont suivies d'averses. Prudence sur le sud-ouest en vigilance orange, c'est très agité. Avec de fortes pluies, des inondations et des crues à craindre, de fortes vagues sur le littoral et du vent très fort cette nuit et demain, jusqu'à 90 à 120 km à l'heure, 100 à 130 sur les Pyrénées et le Piémont. Ailleurs, beaucoup de vent aussi, jusqu'à 90 à 110 km à l'heure sur les côtes et le relief, 130 en Corse de demain après-midi, plus peut-être sur les caps et le relief. Demain, on retrouvera nos pluies sur la façade est, encore soutenues, avec de la neige autour de 800 mètres. Beaucoup de pluie aussi en Corse. Une autre perturbation gagnera l'ouest l'après-midi. Entre les deux, vous aurez des averses fréquentes au sud. De la neige sur les Pyrénées vers 2000 mètres. Attention toujours au fort risque d'avalanche. Il fera moins froid, 4 à 15 degrés le matin et 6 à 17 l'après-midi.
Tout juste 20h30 sur France Info, toute l'info avec vous. Bonsoir mon cher Emmanuel Langlois.
Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. Édouard Philippe a entendu les syndicats au lendemain de la présentation du projet de réforme des retraites. Le Premier ministre dit vouloir reprendre rapidement le dialogue avec les partenaires sociaux. À son arrivée au sommet européen de Bruxelles, Emmanuel Macron a lui souhaité qu'une concertation s'ouvre sur la proposition faite la veille par le Premier ministre sur cette réforme des retraites. Au 9e jour de grève, le trafic SNCF restera à demain fortement perturbé, avec notamment un TGV et un Transilien sur 4 en circulation. À la RATP, 8 lignes de métro parisiens resteront fermées contre 10 aujourd'hui. Un scrutin décisif pour l'avenir du Royaume-Uni. Les Britanniques doivent choisir aujourd'hui entre le Brexit de Boris Johnson et un nouveau référendum sur la sortie de l'Union européenne, promis par le travailliste Jeremy Corbyn. C'est pour sortir de l'impasse du Brexit que le Premier ministre conservateur a voulu ces législatives, les troisièmes en 4 ans et demi, outre-Manche. Autre élection, une présidentielle sous tension en Algérie après presque 10 mois d'une contestation populaire inédite qui a poussé le président Bouteflika à la démission. Eh bien, les Algériens étaient appelés aux urnes aujourd'hui, journée d'élection marquée par la manifestation de dizaines de milliers de personnes dans le centre d'Alger, mais aussi de troubles en Kabylie. Un scrutin marqué par un fort taux d'abstention. Dernière estimation cet après-midi, un peu plus de 20% de participation à Alger. Mathilde Dehimi.
Dans l'un des 8 bureaux de ce centre d'El Madania, quartier populaire sur les hauteurs d'Alger, la pile de bulletins n'a pas beaucoup diminué. 2200 personnes inscrites, 179 votants en milieu d'après-midi, dont Aïcha.
Nous, on a vécu la guerre, donc nous sommes engagés depuis longtemps. On choisit bien sûr celui qu'on connaît le plus.
Ce sont surtout les anciens qui viennent voter. Les jeunes, eux, sont descendus manifester contre le système en contrebas. Cette dame, carte d'électrice à la main, espère beaucoup de ce scrutin.
C'est un devoir, il le faut. La stabilité, la sécurité. L'Algérie a besoin d'un président, bien sûr.
Mais difficile de savoir sur quels critères elles ont choisi leur candidat. Elles gardent le nom pour elles. Au café à côté, les hommes discutent de cette élection, trahison pour eux comme Mourad.
On est contre le vote. C'est pas qu'on ne veut pas voter, non. Le système, il nous a imposé des gens que nous, on n'accepte pas. C'est les gens qui ont travaillé avec Bouteflika. Il a détruit l'Algérie. Il fallait mettre des gens du peuple et là, on allait voter, aucun problème. Nous, notre président, c'est le peuple.
Il revient du centre-ville où des dizaines de milliers de personnes ont défilé une fois de plus contre le scrutin et contre le système, entouré d'un important dispositif policier.
Reportage à Alger de Mathilde Dehimi. Le groupe État islamique revendique, lui, l'attaque meurtrière menée avant-hier pendant plusieurs heures par des centaines d'assaillants contre un camp militaire dans l'ouest du Niger, à la frontière malienne. Elle a fait 71 morts. C'est l'une des attaques les plus meurtrières jamais menées contre les armées du Sahel. Un deuil national de 3 jours a été décrété au Niger. Et puis le comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024 a choisi. Il officialise le choix de Tahiti pour accueillir les épreuves de surf. La décision doit encore être validée par le CIO. L'île polynésienne était notamment en concurrence avec Biarritz et Lacanau sur la côte atlantique.
20h, 21h, France Info, les informés. Jean-François Aquilé.
La deuxième partie des informés de France Info avec Véronique Reilsoult, présidente de Dentsu Consulting, avec Olivier Perrou, journaliste politique au Point, et avec Gilles Bandstein, éditorialiste politique à France Info. Nous sommes évidemment bien sur la réforme des retraites avec ce grand mystère. Ce soir, y aura-t-il une réouverture du dialogue, voire même de négociation à l'heure où cette réforme se voit bloquée par une vaste mobilisation qui, au fond, retire un soutien populaire, comme le rappelait Véronique Reilsoult avec notre enquête au Doxa Dentsu Consulting pour France Info et Le Figaro. Je vous propose d'écouter ce qu'a dit ce matin le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui était l'invité des 4 vérités sur France 2, sur les modalités pour atteindre l'équilibre financier des retraites.
L'âge d'équilibre, les modalités pour parvenir à l'équilibre financier, c'est négociable.
Mais pas le principe même de l'âge d'équilibre.
On ne peut pas à la fois dire aux Français, on va vous garantir des avancées sociales majeures. On va vous garantir que votre régime de retraite par répartition, celui de 1945, va être sauvé et qu'on gardera cette singularité française à laquelle je suis très attaché. Nous cotisons tous les uns pour les autres. Nous sommes solidaires entre les générations. Ça, c'est le modèle français.
Gilles Bandstein, pour bien comprendre, les points, le système par points, ça ne bouge pas. L'âge pivot, ça ne bouge pas non plus. Qu'est-ce que ça signifie discuter des modalités pour atteindre l'équilibre financier? On peut se débarrasser de l'âge pivot finalement?
Oui, moi je crois que ce qui peut bouger, c'est l'âge pivot. De toute façon, c'est assez clair. Sinon, les réformistes ne reviennent pas à la table. L'enjeu, il y a une loi cadre dans laquelle aujourd'hui figure, dans le projet de loi cadre, figure cet âge pivot. Si le gouvernement dit « Ok, on laisse la gouvernance du système aux syndicats », même en insistant sur le fait que l'équilibre financier, c'est important vis-à-vis des nouvelles générations, il faut un système à l'équilibre, tout ce que vous voulez, aux partenaires sociaux de se débrouiller pour trouver l'équilibre, sans dire que par ailleurs on leur met le pistolet sur la tempe, ça peut marcher, mais il faut, enfin à mon avis, c'est mon avis, et d'après j'ai eu des ministres au téléphone qui disent effectivement, c'est maintenant pour s'en sortir, il faut que cet âge pivot disparaisse. Alors est-ce que le président de la République et est-ce que le Premier ministre sont prêts à aller jusque-là? C'est la question.
Ah, c'est le prix à payer peut-être, oui. Olivier Perrou?
En tout cas, c'est ce que dit Bruno Le Maire, c'est très intéressant parce qu'il n'est pas le seul à le dire. Ça fait plusieurs fois qu'autour du président de la République, lors des fameuses réunions sur avec les ministres concernés pour justement décrypter et puis éclaircir cette réforme avant le discours d'Edouard Philippe, il y avait beaucoup de ministres qui disaient « ne soyons pas aussi durs sur la réforme de l'âge, on garde les points, on ne bouge pas sur les points ». Et finalement, l'objectif, c'est de ramener la CFDT, de ramener les réformistes autour de la table. Il n'était pas seul Bruno Le Maire à dire ça d'ailleurs. Il y avait Gérald Darmanin qui disait on n'est pas des budgétaires. Donc ça veut dire que finalement cette question de l'âge.
Il ne faut pas être bêtement budgétaire.
Exactement.
Voilà, vous avez la parole. Rappeler,
Donc finalement on voit que cette réforme aussi c'est celle que veut fondamentalement le Premier ministre, qu'il la porte non seulement, mais qu'il a réussi à gagner un arbitrage, c'est-à-dire cette mesure d'âge. Et là, on voit que la musique commence à changer autour du...
Le temps change, effectivement, ce soir. Véronique Reilsoult, est-ce qu'au fond, l'opinion considère cet âge pivot, en fait, cet âge de référence, c'est l'expression exacte, comme une sorte de nouvel âge de départ à la retraite qui ne dirait pas son nom?
Ah oui,
la retraite à 64 ans, point.
Oui, c'est clairement comme ça qu'ils l'ont compris.
Depuis le début.
Depuis longtemps, oui. Parce que depuis le début de la réforme.
Ça l'est.
Et ouais. Depuis le début, tout le monde a compris qu'on va devoir travailler plus longtemps. Donc voilà, que ça fasse pas plaisir.
Est-ce que c'est admis, ça, au fond, travailler plus longtemps? Est-ce que c'est quelque chose qui entre dans les esprits?
C'est compris, c'est pas forcément admis, mais c'est compris et c'est intégré. Et après, de nouveau, on regardait si cette mesure était dans celle qui était rejetée ou plébiscitée. C'est à 50-50. En revanche, il y a un vrai sujet de génération qui est en train de s'installer. Mais s'il faut céder sur un point, c'est sans doute un des points qui suscite le moins d'engouement ou de rejet. Donc à la limite, on va dire que c'est pas forcément le point le plus compliqué à lâcher. Mais évidemment, les gens l'ont compris, comme c'est l'âge à laquelle il faudra partir.
Gilles Blanchet, pourquoi avoir installé cet âge pivot qui fait débat depuis quelques temps? Rappelez-vous le chef de l'État qui avait dit « moi je suis plus pour la durée des cotisations ». On sent que
il y a du
tirage là-dessus.
Ouais, alors c'est une excellente question que j'ai posée à tous mes interlocuteurs aujourd'hui. Pourquoi on en est arrivé là? À mon avis, il y a deux explications, et parce qu'elles ne viennent pas de la même, sur qui on s'adresse. Je pense que le Premier ministre est intimement persuadé, en responsabilité, qu'il doit laisser, que le système ne peut commencer qu'à l'équilibre, et il est sincère quand il dit c'est notre responsabilité d'instaurer les mesures qui font que le système commence à l'équilibre. Parce que c'est un juppéiste, orthodoxe économiquement, attaché à la rigueur budgétaire. Pour le président de la République, dont tout le monde dit que, franchement, pour lâcher 17 milliards aux Gilets jaunes, il était moins obsédé par l'équilibre des régimes. Donc, je pense que le président de la République, j'en ai pour un instant,
je vous en prie.
Le président de la République pense aussi que son électorat, lui, il fait de la politique, le président de la République, son électorat, qui est désormais un électorat de centre-droit, qui est l'électorat de François Bayrou, son électorat l'attend là-dessus. Son électorat, son nouvel électorat de centre-droit, attend d'Emmanuel Macron qu'il soit rigoureux. Et à mon avis, Macron l'a fait. Autant pour des raisons politiques que pour des raisons économiques.
Alors j'ai le plaisir d'annoncer l'arrivée dans ce studio de Naila Latrousse, que je remercie mille fois de nous avoir rejoint ce soir. Je rappelle, vous êtes journaliste, rédactrice en chef Maghreb et Moyen-Orient à Jeune Afrique Magazine, vous tombez à pic, on va parler de l'Algérie dans un instant, et vous êtes surtout, à mes yeux, la présentatrice des informés de cette belle émission le week-end.
On se passe le relais, c'est ça.
Absolument, pour une fois que j'ai le plaisir de vous avoir sur ce plateau, pardon pour vous avoir au fond fait venir dans cette difficulté ce soir que représente la circulation dans la capitale. Je vous rappelle, sondage Odoxa Dansu Consulting pour France Info Le Figaro, que après les explications du Premier ministre, plus de 2/3 des Français estiment que les mobilisations contre la réforme des retraites sont justifiées. Vous êtes ce soir un petit peu une sorte de dégât collatéral des difficultés de circulation dans Paris. Allez, 20h40 sur France Info. Le rappel de l'info avec vous, Steven Goyer.
Et après la circulation sur les routes, un trafic très partiel sur les rails. Demain, un TGV Transilien et Intercité sur 4 et seulement 4 TER sur 10 en circulation, annonce la SNCF. Côté RATP, 8 lignes de métro resteront fermées à Paris suite de la mobilisation contre la réforme des retraites. Emmanuel Macron lui appelle à la concertation sur le projet de réforme présenté par Édouard Philippe hier midi. Projet unanimement contesté par les syndicats. Sur Twitter, le Premier ministre dit vouloir reprendre le dialogue. Patrick Balkany reste hospitalisé ce soir. D'après son épouse Isabelle, le maire de Levallois-Perret souffre de douleurs de dos insupportables. Une hospitalisation au lendemain de l'ouverture du procès en appel contre le couple pour fraude fiscale. L'État islamique revendique l'attaque contre un camp militaire dans l'ouest du Niger. 71 soldats avaient été tués dans un assaut djihadiste avant-hier. La présidence nigérienne annonce 3 jours de deuil pour leur rendre hommage. Le conseil d'administration de Paris 2024 a tranché. Les épreuves de surf auront lieu à Tahiti sur le site de Teupu. Un choix basé sur la qualité de la vague sur le spot face à 4 autres villes de la côte atlantique.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
C'est une élection présidentielle sous tension qui se déroule en Algérie sur fond de boycott du scrutin. Bonsoir à vous, Mathilde Daimi.
Bonsoir Jean-François.
Journaliste à France Inter, vous couvrez ces élections et qui se déroulent dans un climat tendu sur fond de manifestations. Les Algériens, Mathilde, ont-ils voté aujourd'hui ?
Le dépouillement est en cours depuis 19h et d'après les derniers chiffres officiels de participation à 17h, un tiers des 24 millions d'Algériens inscrits ont voté. Et le président de l'autorité indépendante des élections, une instance nouvelle qui a été créée pour l'occasion, il estime que la moitié des inscrits au final se seraient déplacés pour ce scrutin. Pour rappel, Jean-François, en fin de matinée, le taux de participation était seulement de 5%. Et dans les 7 bureaux où nous sommes rendus, dans plusieurs quartiers différents d'Alger, il n'y avait franchement pas beaucoup d'affluence. Les villes militaires ont, elles, beaucoup plus voté. La foule, en fait, était du côté des opposants à ce scrutin, avec une nouvelle fois depuis 10 mois un centre d'Alger noir de monde. Rassemblement pacifiste, carton rouge contre le vote et main levée à chaque charge des policiers anti-émeutes. Il y a eu aussi beaucoup d'interpellations préventives d'après le comité de libération des détenus. En quelques semaines, le climat s'est durci et particulièrement aujourd'hui, Jean-François.
Alors vous avez dit, l'instant grande manifestation à Alger, mais aussi, Mathilde, des troubles en Kabylie.
Oui, la Kabylie très investie dans ce mouvement anti-système. Des manifestants sont d'ailleurs en prison pour avoir brandi le drapeau kabyle lors de précédents rassemblements. D'ailleurs, nous n'avons pas eu, nous, l'autorisation de nous y rendre en Kabylie. L'autorité indépendante des élections confirme des bureaux fermés dans les principales villes. Les réseaux sociaux relaient au moins des images de 2 bureaux de vote saccagés. Tension aussi entre policiers et manifestants autour de la préfecture de Tizi Ouzou. Et ce soir, l'équipe de campagne de l'un des principaux candidat Abdelmadjid Tebboune annonce dans les médias algériens la mort de l'un de ses observateurs, cette fois dans l'ouest du pays, et des incitations financières autour de bureaux de vote.
Allez, rapidement, je vous libère, Mathilde Hémy. Je poserai la même question à Nadia Latrousse. Quelle est la validité de ce scrutin au fond ?
Alors les résultats seront proclamés normalement demain. Il est possible qu'il y ait un second tour, ce serait une première. Le futur président, les 5 candidats sont tous liés de toute manière, d'une manière ou d'une autre, à l'ancien Raïs Abdelaziz Bouteflika. Et ce président, ce futur président ne sera pas reconnu quoi qu'il arrive par une partie de la population. Crise donc à venir de légitimité. Et pour le pouvoir, il faut absolument sortir de cette période d'intérim, revenir dans la constitution, redonner primauté au pouvoir civil et non militaire. C'est de la poudre aux yeux, une mascarade pour les manifestants. Ils nous disent que ça servira à leur dire de rentrer chez eux. Et ils nous disent, eux, qu'ils seront de nouveau là demain dans les cortèges.
Merci à vous, en tous les cas, Mathilde Dehémy, pour ce regard sur cette élection algérienne en direct d'Alger avec les moyens d'Arthur Gerbeau, que je salue au passage. Neila Latrousse, quelle est la validité de ces élections ?
C'est la bonne question. Toute l'inconnue reste effectivement celle de la participation. C'est-à-dire que on sait depuis plusieurs années que les listes électorales sont plutôt insincères en Algérie. À la faveur de la révolution, un certain nombre de responsables politiques ont reconnu que pour avoir un scrutin transparent, il fallait toiletter un peu ce fichier électoral et que cela prendrait 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois. On a assez peu de précisions sur l'opération qui a été faite sur ce fichier électoral. Donc très concrètement, on ne sait pas si toutes les personnes qui ont le droit de voter ont légalement le droit de voter, s'il n'y a pas des personnes qui ont perdu leurs droits civiques, qui sont décédées, peut-être qui ne sont pas inscrites dessus. Un certain nombre de personnes qui ont tenté d'aller voter se sont vues répondre qu'elles n'étaient pas sur le fichier électoral. Donc toute la difficulté est de savoir qui a voté à ce scrutin, sachant que la correspondante de France Inter à Alger, l'envoyée spéciale, précisait par ailleurs qu'elle avait vu des bureaux de vote plutôt vides là où elle avait pu y aller. Donc vraiment, toute la difficulté, c'est de savoir quel est ce corps électoral qui s'est déplacé.
Alors, il y a le corps électoral, mais il y a bien un président qui va sortir du chapeau, Neila. Est-ce qu'il sera légitime, au fond ?
C'est toute l'autre difficulté de ce président-là, c'est que, ouais. En réalité, l'opération de vote s'est déroulée conformément à ce qu'a souhaité l'institution militaire. Lorsque, en septembre dernier, le chef d'état-major a dit « le président annoncera le 15 septembre une date des élections » et que le président intérimaire s'est invité à la télé pour dire « je vais vous annoncer la date des élections », tout le monde a compris que la réalité du pouvoir se trouvait plutôt du côté des militaires. Donc, le futur président partira déjà avec ce premier handicap de savoir est-ce qu'il a vraiment été choisi par un corps électoral dont on ignore tout, ou est-ce qu'il a été choisi par des militaires. Par ailleurs, compte tenu du refus et du contexte particulier dans lequel s'est tenue cette élection, avec effectivement un certain nombre de bâtiments brûlés en Kabylie, des heurts tout le moins entre votants et non-votants, la question est de savoir, est-ce que le taux de participation officiel, puisqu'il y aura un taux de participation officiel qui sera annoncé, sera en lui-même suffisant pour que ce président puisse jouir d'un semblant de début de légitimité.
Alors que dit la rue algéroise, je vous propose ces quelques témoignages et vous réagissez ensuite sur ce plateau.
Vivre dans une démocratie, c'est avoir un président, c'est voter.
On ne peut pas rester comme ça, sans président pendant de longs mois.
Nous, on veut bien avoir des élections, mais pas celle-ci, pas comme ça. On veut pouvoir choisir notre candidat.
Le mouvement du Irak aurait dû présenter un candidat, mais il ne l'a pas fait. Résultat, on nous a imposé 5 hommes qui sont de l'ancien système.
Voilà, le Irak, c'est le mouvement anti-régime. Gilles Bornstein.
Oui, je voulais poser une question à Neila, parce qu'on sait que donc, ce sont 5 candidats issus du régime, et comme vous l'avez dit, on ne sait pas dans quelles conditions ils seront élus. Est-ce que vous savez ce que fera la communauté internationale de ce résultat, et particulièrement la France? On sait que c'est toujours compliqué, le rapport entre la France et le pouvoir algérien. Est-ce que la France fera de ce président élu un interlocuteur légitime ou pas?
Alors, je ne sais pas si aujourd'hui, à l'heure où on se parle, compte tenu des opérations de dépouillement et du climat dans lequel s'est déroulée l'élection aujourd'hui, si la France réagira, de quelle façon la France pourra réagir à ce scrutin. Je peux vous dire en revanche qu'il y a quelques mois à peine, lorsque je discutais avec nombre de diplomates en poste ou anciennement en poste à Alger, ils me disaient que le Quai d'Orsay n'avait de toute façon pas d'autre choix que de reconnaître ce président, qu'entre-temps il y avait eu les élections en Tunisie avec un président élu avec un faible taux de participation au scrutin et que mine de rien, on se contenterait d'un 40-45% et que ce qui comptait désormais c'était d'écrire la page à venir. Et que malheureusement, il n'y avait pas d'autre choix que d'accepter.
La suite sera compliquée, quel que soit le président élu. Nous sommes d'accord là-dessus.
Le Irak, ce mouvement révolutionnaire, dit quel que soit le président élu, le mouvement se poursuivra sous
la France. Mais ce que vous nous dites, c'est que la France fera avec.
Il y a quelques mois, c'est ce qu'on me disait.
Véronique Reltsoult, que disent les réseaux?
Alors, ce que disent les réseaux, déjà, vous savez qu'en France, il y a une relation particulière avec l'Algérie, comme vous l'avez dit, qu'il y a énormément d'Algériens ou de personnes.
Et un lien très fort, oui.
Donc, il y a un lien très fort, où les uns et les autres s'expriment. Évidemment, c'est plutôt le sujet du boycott qui est principalement discuté. Vous avez aussi une réalité sur les réseaux sociaux localement qui est très importante, avec beaucoup de partage d'images, énormément de témoignages concrets sur cette fameuse représentativité dont vous parlez du corps électoral. Alors, il y a moult anecdotes d'enfants de 7 ans qui auraient voté, de personnes qui ont disparu depuis longtemps qui ont voté aussi. Bref, énormément de témoignages qui démontrent que effectivement ce sujet de légitimité va être compliqué. Et puis vous avez des appels au boycott très concrets avec des consignes, des éléments, des partages d'organisations qui doivent disparaître aussi rapidement, sachant que Facebook et beaucoup de blogs aussi sont des lieux où les uns et les autres s'expriment avec peur. Évidemment, chacun essaie souvent de cacher la réalité de son identité, mais s'exprime. Donc c'est voilà, ils ont aujourd'hui une réalité d'une tribune pour partager que le gouvernement ne peut si facilement endiguer.
Neila Latrousse, un mot sur le général Ahmed Gaïd Salah, qui est quand même la personnalité, le pilier du régime, qui est là, qui avait semblé, s'il était le facilitateur de la transition de l'après Bouteflika. Comment est-il vécu aujourd'hui?
C'est lui qui avait même demandé l'application de l'article qui réclamait la démission d'Abdelaziz Bouteflika.
Nous l'avions commenté avec vous sur ce plateau.
Et c'est son intervention décisive à la télévision qui fait que Abdelaziz Bouteflika démissionne sur le champ, puisqu'il lui demande de remettre sa démission le soir même. Je ne sais plus quel était le terme, mais c'était à peu près le temps est compté. C'est un personnage qui aujourd'hui est assez peu apprécié. Les slogans sont extrêmement dirigés à son encontre. Toute la crainte à ce stade sur le processus électoral, c'est aussi que dès demain, un candidat soit désigné président, c'est-à-dire élu dès le premier tour, ce qui pourrait, compte tenu du contexte, encore une fois, très particulier et très tendu dans lequel se déroule ce scrutin, agacer un peu plus les Algériens.
Une idée sur l'heure à laquelle ce résultat sera proclamé demain? On a une
estimation? En théorie, c'est le vendredi, après 13h, entre 14h et 15h.
Nous verrons bien ce qui sort de ces urnes, de ce premier tour de cette élection présidentielle en Algérie. 20h50 sur France Info, on va passer en Grande-Bretagne juste après. Tout d'abord, le rappel de l'info avec vous, Steven Gouaillet.
Plus de 6 Français sur 10 pas convaincus par les annonces du Premier ministre hier sur la réforme des retraites. Résultat du sondage Odoxa Dentsu Consulting pour France Info et Le Figaro. Une majorité juge pourtant que son intervention a été claire sur la forme. Fin de mouvement pour les syndicats policiers. Annonce après plus de 2h30 de discussion place Beauvau. Ils ont obtenu la garantie du maintien de leur régime spécifique. Il avait tenté de tuer 3 militaires à Nice en février 2015. La cour d'assises condamne Moussa Koulibaly à 30 ans de réclusion criminelle. Il est reconnu coupable de tentative d'assassinat, mais aussi d'association de malfaiteurs terroristes. Brexit ou deuxième référendum, choix soumis en ce moment aux électeurs britanniques. Un scrutin législatif disputé entre conservateurs de Boris Johnson et travaillistes de Jeremy Corbyn. Les bureaux de vote ferment à 23h. Le Stade Rennais sort aussi de sa compétition européenne, mais avec les honneurs, victoire 2-0 en Europa League face à la Lazio Rome. Saint-Etienne affronte Wolfsburg dans moins de 10 minutes.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Et pendant ce temps, les Britanniques votent de l'autre côté de la Manche, des législatives qui seront assez déterminantes pour la suite, puisque soit elles dégagent la voie au Brexit tout de suite, là, voulu par le Premier ministre Boris Johnson, soit eh bien, elles aboutissent à un nouveau référendum promis par le travailliste Jeremy Corbyn. Voilà, j'ai résumé un petit peu la situation. Il y a eu ce fait marquant de la campagne qui a permis aux conservateurs et aux travaillistes de s'écharper autour du système de santé publique, et cette vidéo de cet enfant qui était couché dans des urgences et qui attendait, couché par terre, donc remise en cause du système de santé britannique. Et le Premier ministre, en début de semaine, souvenez-vous, qui avait dû présenter ses excuses.
C'est une photo terrible, terrible. Je m'excuse évidemment auprès de la famille et des patients qui ont de mauvaises expériences dans nos hôpitaux publics.
Mais votre parti conservateur est au pouvoir depuis 10 ans. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui attendent plus de 12 heures aux urgences ?
Notre pays doit aller de l'avant. Notre Parlement doit se consacrer à ses problèmes et pas à perdre du temps une année de plus sur le dossier du Brexit.
Voilà, Boris Johnson, Olivier Perroux, avec les difficultés que rencontre notre pays aujourd'hui. On avait presque oublié ce qui se passait de l'autre côté de la Manche pour la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne.
Vous êtes confiant à ce qu'il sortie il y aura, parce que le slogan de Boris Johnson, c'est de dire que enfin on va faire le Brexit, to get Brexit done. Mais le problème, c'est que Boris Johnson, il avait déjà fait cette promesse il y a quelques mois. Il l'avait déjà d'ailleurs fait encore avant d'être nommé
il
Premier ministre.
Mais il n'avait pas le Parlement pour.
Mais il n'avait pas le Parlement pour. Et c'est pour ça que là, on est vraiment sur un moment très charnière de la politique britannique, parce que s'il arrive à obtenir sa majorité de Brexiteers, donc de gens qui veulent partir, là il pourra avoir son référendum et mettre un peu plus de pression sur Bruxelles.
Nadia Latrousse, le Premier ministre britannique conservateur est favori ? Oui.
Dans les derniers sondages, on a remarqué que malgré toutes les phrases, et malgré toutes les petites polémiques, les votes perdus au niveau du Parlement, eh bien sa cote de popularité ne chutait pas, et c'est sans doute le calcul qu'il fait. Cela dit, ce que je remarque, c'est que la motion qui lui avait fait perdre le dernier vote avait été introduite par quelqu'un qui faisait auparavant partie de sa majorité, donc il n'est pas sûr non plus qu'en remportant ces législatives, il puisse avoir une majorité complètement docile qui lui permette d'avoir les mains libres pour la suite.
Oui, Gilles Bernstein. Je ne sais pas ce qui est le plus compliqué, la réforme des retraites ou le Brexit. C'est la question la plus absurde de la soirée.
Les deux.
Moi, j'irais le Brexit quand même.
Ouais, ça fait longtemps.
Plus sérieusement, c'est un épisode qui va quand même se refermer. Si Boris Johnson l'emporte, ça va finir par partir, cette histoire de Brexit. On va en finir, une bonne fois pour toutes.
J'ai l'impression que oui.
On est au bout.
Ouais. Le Brexit, enfin l'étape Brexit, j'ai l'impression que oui. Après, il y a toutes les négociations pour les relations futures de la Grande-Bretagne avec l'Europe et avec d'autres pays du monde où il faut reconstruire tous les systèmes qui auront été déconstruits. Et ça, pour le coup, c'est pas fini, ça ne fait que commencer.
C'est
des années de négociations.
Véronique Rensoud, vous nous expliquiez il y a quelques semaines, moi, parce que c'est une affaire qui date désormais, que ce sujet hystérisait un petit peu les réseaux sociaux, intriguait beaucoup de monde. Je ne suis pas sûr que ça capte autant d'attention aujourd'hui.
Alors, en fait, il y a une forte lassitude quand même qui est ressentie là-bas. Donc, ils incitent plutôt à voter. Donc, c'est l'inverse de la discussion que nous venons d'avoir. C'est pas forcément un vote pour, mais plutôt un vote contre. Et globalement, troisième élection en 4 ans, il y a une forme de lassitude qui s'installe. Ils ont envie d'en sortir. Et donc, c'est pas tant qu'ils aient envie du Brexit au bout du compte, mais si on doit en sortir, on en sort. C'est plus ce sentiment que c'est un jour sans fin, ce jour sans fin, il va falloir qu'il s'arrête à un moment donné. Donc on sent que les Anglais sont aujourd'hui arrivés à un stade où voilà, il faut que ça s'arrête, et si pour ça s'arrêter il faut que ce soit Bojo, et ben ça sera Bojo.
Oui, Olivier Perroux.
Je crois, tout à l'heure je parlais de moment charnière justement, le Royaume-Uni arrive enfin à avoir ce Brexit et à quitter l'Union Européenne, il y a d'autres problèmes qui vont commencer à monter très fort au Royaume-Uni. C'est l'essence même du Royaume-Uni, c'est-à-dire l'Écosse qui a voté contre le Brexit, l'Irlande du Nord qui a voté contre le Brexit, et cette fameuse frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande. Donc là, finalement, on est dans une nouvelle phase. Si Boris Johnson est élu, on est dans une nouvelle phase pour le Royaume-Uni qui la regarde plutôt, où tout le monde se regarde un peu dans le blanc des yeux. Qu'est-ce que va devenir le Royaume-Uni après le Brexit ?
Oui, Naila Latrousse, nous sommes dans une phase de bouillonnement au sein de l'Union Européenne. On a la sensation que les choses se délitent quelque peu. Pourtant, il y a un sommet européen aujourd'hui à Bruxelles.
Pour le Royaume-Uni, pour le coup, c'est une vraie tristesse pour les pro-européens. Ça, c'est un des pays qu'il a fallu convaincre à plusieurs reprises de jouer le jeu de l'Europe. Ça n'a pas été compliqué. Ça a été de longues séances de négociations pour les pères fondateurs et ce par la suite. Ça, c'est toujours triste, un pays qui tourne le dos à cette histoire, j'allais dire millénaire. Non, allez. Je vais peut-être pas m'enflammer sur du millénaire, mais tout de même, la question qui se pose, c'est au-delà simplement de l'Union européenne, et donc pour le coup du rapport institutionnel que le pays peut avoir avec le continent, la question géographique reste également prégnante, là où on voit que Donald Trump notamment propose un certain nombre de deals commerciaux pour essayer d'amener à lui un Royaume-Uni qui serait une forme de cheval de Troie dans cette Europe continentale. La question est de savoir si les Anglais, si nos amis britanniques plus généralement n'auront pas à cœur de démontrer qu'au final ils appartiennent plutôt à un axe Paris-Bruxelles-Londres.
Allez, ce sera le mot de la fin de ces informés un petit peu particuliers, un petit peu bousculés par les mouvements sociaux ce soir. Je vous rappelle l'essentiel de notre enquête au Doxa, Dansu Consulting, pour France Info, Le Figaro, Edouard Philippe, qui n'a pas convaincu une majorité de Français, et tout le monde pense être plutôt perdant avec la réforme des retraites. Sondage, enquête à revisiter sur notre site franceinfo.fr. Avec vous, Olivier Perroux, quelle est la une de l'hebdomadaire Le Point?
Alors, au Point, on s'interroge sur le modèle social en France, puisqu'on parle des retraites, et surtout, on pose une question, on a un palmarès, où sont les femmes dans les directions des grandes entreprises? Et voilà, il y a un problème assez important finalement.
À lire donc dans l'hebdomadaire Le Point, et avec vous, Naya Latrousse, qu'est-ce que nous vous proposez dans Jeune Afrique Magazine?
On a l'interview de Hasdine Youbi, candidat à la présidentielle en Algérie. On verra demain si les sondages qu'il donnait favori se confirment ou pas. On a également un portrait de Abdelmadjid Tebboune qui manifestement crée la surprise dans les yeux de ce soir.
Allez, à lire dans Jeune Afrique Magazine, et à vous retrouver avec plaisir, Naya Latrousse, tous les week-ends pour vous qui pilotez les informés de France Info. Merci également à vous, Gilles Bornstein et Véronique Relsoult. Pour ma part, je vous dis à demain soir pour une toute nouvelle édition des Informés. Bonne soirée.